bonjour et bienvenue sur Radio Voyageurs, la radio qui vous fait voyager autrement, la radio qui vous fait voyager intelligemment. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Grèce, mais pas n'importe quelle Grèce, une Grèce loin des clichés et des touristes. La Grèce, c'est évidemment un continent et aussi plus de 9000 îles. Alors pour vous donner envie de voyager, Ingrid Wick, bonjour, vous êtes bonjour. Conseiller chez Voyageurs du Monde, spécialiste de la Grèce, bien évidemment. Michel Yves Labbé, fondateur de Départ Demain et grand connaisseur de la Grèce, comme de pratiquement tous les pays du monde.
Non, mais surtout de la Grèce. Surtout
mais la Grèce, il est vraiment très très fort.
Et Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du Monde, et on sera en ligne tout à l'heure avec Yorgos Archimandritis, qui est écrivain, producteur de documentaires sur France Culture et pour la radio grecque, biographe de Daniel Mitterrand, de Théo Angelopoulos et de Mikis Theodorakis. Et il est à Athènes. C'est quelqu'un de formidable. Et il est à Athènes en ce moment. Et il va nous raconter tout ce qu'il faut voir à Athènes. Alors, on va peut-être commencer. Mais chacun, vous allez me dire, j'aime bien commencer l'émission à chaque fois que vous me disiez votre Grèce à vous, votre endroit en Grèce, celui que vous préférez, Jean-François Rial.
Écoute, c'est compliqué parce qu'il y a tellement d'endroits incroyables. Je crois que ce qui m'a le plus marqué, en fait, en Grèce, c'est les vues plongeantes vers la mer qu'on a quand on est au nord du Péloponnèse, qu'on a lorsqu'on circule en Crète, qu'on a un peu partout d'ailleurs dans cette Grèce, qu'on a au Mont Athos que j'ai eu la chance de visiter. C'est-à-dire qu'en fait, on a une espèce de vue permanente sur cette mer qui est peut-être la mer la plus bleue de la Méditerranée. Ça, on en reparlera tout à l'heure, mais je crois que j'ai jamais vu une mer aussi bleue. Et puis, il y a un endroit dont je suis totalement fan, moi, personnellement, en Grèce. C'est l'Acanée en Crète. Je sais pas, j'ai eu un choc émotionnel quand je suis rentré dans ce petit port. Et c'est pas si courant, même quand on voyage beaucoup, même quand on a encore regardé des yeux de quelqu'un qui peut s'émerveiller très facilement. L'Acanée m'a vraiment marqué. Et puis Spetses et sport, cet hôtel Poséidon, on est tellement bien là. C'est un voyage à lui seul, cet hôtel.
Michel Yves.
Moi, c'est simple, c'est le Parthénon.
Ah, le Parthénon.
Chaque fois que je vais à Athènes, j'adore le Parthénon. Ça me fait quelque chose. Je trouve que c'est un phare de notre civilisation. Pensez que là, il y avait Aristote qui enseignait, là, tout ça. Et tous ces gens qui sont passés à cet endroit-là, cette humanité et ces humanismes, en quelque sorte, qui étaient là réunis, et puis en dessous, à l'Agora. Moi, ça me fait toujours quelque chose. Donc, je ne me lâche jamais du Parthénon. Et chaque fois que je vais à Athènes, même si j'ai rendez-vous dans un autre quartier, ou ainsi de suite, je vais obligatoirement, je fais le détour.
Ingrid ?
Alors, c'est une question difficile, oui. Parce que la Grèce est vraiment multiple et variée. On peut faire 10 voyages en Grèce et faire 10 voyages différents, mais moi, si je devais donner une préférence, mon cœur bat vraiment pour la Grèce continentale, et notamment la région du Pélion, qui est un petit crochet sur l'est de la Grèce centrale, où justement, Jean-François, on a cette vue plongeante sur la mer et sur tout le golfe du Pélion depuis un petit village qui s'appelle Makrinitsa. On est à 700 mètres d'altitude. Et de là-haut, on voit le nord de l'île de Bé, toutes les montagnes de la Grèce centrale, jusqu'aux îles des Sporades. C'est fabuleux.
Ils ont tourné Mamma Mia, là.
Sur l'île de Skopelos, oui, tout à fait.
Mais l'essentiel...
Non, au petit village aussi, dans le Pélion aussi.
Sur le petit village qui est dans le film. Ouais. L'essentiel des demandes pour vous, chez Voyageurs du Monde, se concentre sur les Cyclades. On connaît Santorin, on connaît Mykonos, enfin, ce sont des noms. On a l'impression que tout le monde va dans ces îles-là, mais il y a beaucoup plus à découvrir. Vous arrivez à justement faire... donner une envie différente, et où est-ce qu'il faut aller en parlant du continent? On va parler du continent parce qu'on y fait assez peu référence en général.
Oui, c'est vrai. Alors, la majeure partie des demandes va vers les Cyclades et les îles les plus connues. Bon, à raison également, parce qu'elles sont... Elles sont vraiment belles. La Crète aussi, et la partie continentale. Alors, la région la plus connue, c'est évidemment le Péloponnèse, avec ses grands sites antiques et byzantins. On oublie aussi souvent la Grèce centrale et la Grèce du Nord, où on a des influences très diverses. On a toute cette Grèce ottomane sur la partie centrale avec des villes comme Ioannina, porte d'entrée pour les gorges de Vikos, qui sont les gorges les plus profondes d'Europe. Là, on a un parc régional naturel absolument splendide avec des petits villages de pierre. C'est très authentique, très préservé. Et puis, si vous montez sur le nord, on est dans une atmosphère des Balkans.
La Thrace.
Voilà, la Thrace, la Macédoine.
Ça fait rêver tout ça, Alexandre le Grand.
Exactement, la tombe de Philippe de Macédoine avec de grands sites très importants à découvrir également.
Sublime tombe d'ailleurs, que personne ne va jamais voir.
Mais justement, quelles sont les questions qu'on se pose quand on va aller en Grèce ? C'est-à-dire, soit on fait un séjour balnéaire, soit on fait un séjour visite, soit on combine les deux. Qu'est-ce que vous conseillez ?
Tu as tous les styles, hein. Tu peux mélanger les deux en permanence, hein. Moi, j'y suis allé, par exemple, avec ma mère, qui est une helléniste, qui était passionnée par les sites archéologiques. On y allait également avec nos petits-enfants. Donc, on s'est mis à Spetses pour pouvoir à la fois être au bord de la mer, dans une île, et pouvoir rayonner et aller voir les grands sites archéologiques. Donc,
parce que là, tu traverses. Il faut dire que c'est en face du Péloponnèse. Voilà, tu traverses en un quart d'heure.
Voilà, c'est ça. C'est une île merveilleuse. Mais clairement, moi, ce que j'ai remarqué par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure à Ingrid, c'est que, je me souviens, il y a 10 ans, les gens n'allaient que, presque tous,
dans les Cyclades. Dans les Cyclades.
Et quelques éclairés culturels allaient visiter les sites antiques. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui visitent la Grèce continentale. Il y a de plus en plus de gens qui visitent les îles d'influence vénitienne à l'est ou turque à l'ouest ou du nord vers le mont Athos. Il y a vraiment une variété parce que les gens ont compris qu'il ne fallait pas qu'ils s'agglutinent tous ensemble à Mykonos et à Santorin. Ou alors ils y vont en dehors des saisons les plus dures. Mais il y a une vraie variété des demandes des clients, je trouve. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
Ce qui était au départ, le tourisme en Grèce. Au départ, le tourisme en Grèce, c'était le tour du Péloponnèse.
Bien sûr.
On vendait des cargaisons de circuits Péloponnèse, Delphes, et pour les meilleurs d'entre eux, ils allaient jusqu'au Météore. On vendait beaucoup ça. Et après, ça, c'était dans les années 70. Et ensuite, là, il y a eu les premiers clubs, des trucs qui étaient extrêmement rustiques, hein, sur des plages, dans des pinèdes. On se demande d'ailleurs comment on avait l'autorisation de faire des trucs, des paillotes dans des pinèdes, parce que si ça avait brûlé, bonjour les dégâts. Mais en tout cas, c'était comme ça que ça fonctionnait. Et ensuite, de quoi, à partir de 82, il y a eu les premiers charters pour la Crète. C'est pas si vieux que ça, la Crète, c'est 30 ans hein, quand même. Hein. Premier charter sur la Crète.
Et ça a changé la donne du tourisme. Quand on pense à la Grèce aujourd'hui, on pense plus souvent aux îles, justement, qu'à la découverte du continent.
Oui, bien sûr. Et puis il faut savoir aussi qu'avec l'arrivée de la Grèce dans l'Europe, il y a eu beaucoup d'îles qui ont reçu des petits aéroports. Et donc qui ont été reliées de manière plus facile avec Athènes. Avant, il y avait peu d'aéroports. Il y avait Mykonos et Santorin qui avaient des aéroports. Après, les autres n'en avaient pas beaucoup. Et tandis que maintenant, il y a Paros, il y a Naxos, et ainsi de suite, et plein d'autres. Et donc, le tourisme dans les îles s'est développé par la suite, dans les années 90. Et c'est vrai que maintenant, on arrive à un stade où c'est quand même très, très saturé, en tout cas en mois d'août, juillet-août, les îles sont très saturées, donc il faut sortir des sentiers battus.
Et on va vers le nord maintenant. Le continent aussi se redévelope un petit peu, c'est pour ça que je voulais qu'on continue à parler de cette côte-là et puis de cette partie-là, alors Michelis, que
j'allais revenir pour dire que dans le nord, par exemple, il y a eu des stations qui se sont ouvertes, des grands resorts et des choses comme ça. L'hôtellerie qui était plus récente en Crète, parce que la Crète s'était développée après les autres, ou qui était plus récente dans les îles qui s'étaient développées aussi ensuite, elle a été rattrapée maintenant par une hôtellerie de qualité sur le continent. Alors qu'elle avait vieilli, les années 80-90, l'hôtellerie du continent avait vieilli, et donc les gens préféraient aller ailleurs. Maintenant, ils ont rebâti, ou ils ont rénové, restauré, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on peut faire un voyage en Grèce, dans des conditions de confort remarquables, partout, où qu'on aille, y compris dans les pires,
qui est quand même perdu. Il y a 10 ans ou 15 ans, ce n'était pas du tout le cas.
L'hôtellerie
a complètement changé.
Oui, Ingrid, vous vouliez aborder cette question du renouveau des hébergements en Grèce avec des établissements absolument magnifiques.
Oui, c'est vrai que la Grèce a quand même longtemps vécu sur ses acquis en termes d'hôtellerie. Et là, depuis quelques années, on constate un investissement des locaux et des investisseurs étrangers pour développer et ouvrir de très belles adresses, de charme, des petites structures. Alors, notamment pour revenir à l'Épire, vous avez un petit hôtel, le Aristi, qui est très très beau, très soigné, raffiné, où on mange d'ailleurs très bien. Vous avez une vue spectaculaire sur ces fameuses gorges de Vikos, mais également en Crète ou dans les îles des Cyclades, où on commence quand même. Alors il reste encore la petite pension de famille très traditionnelle, on va aussi parfois en Grèce pour cela. Mais néanmoins, on trouve maintenant de belles structures luxe ou pas nécessairement, mais en tout cas très écolo. Avec aussi effectivement un investissement écologique, notamment en Crète. La Crète a quand même beaucoup d'avance sur le reste du pays. En Crète ou dans le sud du Péloponnèse, à Monemvasia, avec le Kinsterna qui a ouvert récemment, qui est un ancien domaine du 19e siècle, si je ne m'abuse, avec qui produit son huile d'olive.
Qui est une sorte de ferme, en fait, de ce qu'on appelle l'agrotourisme, mais de luxe, de grand luxe.
Voilà, rustique chic, c'est une très très belle adresse.
Puis ceux qui sont, exemple, passionnés par l'architecture italienne, quand vous allez à la Canée, quand vous allez à Rétismone ou dans les îles de l'Est, on a des moments, je sais pas ce que tu en penses, Micheline, mais on a l'impression de se retrouver à Venise, quoi. Enfin, c'est incroyable. Il y a des couleurs, des architectures qui sont très proches de tout ça. Mais même à la Canée,
C'est vénitien.
Et ça, c'est quand même fabuleux parce que c'est des sensations, des images, des couleurs qui tout de suite nous emporte. C'est pour ça qu'il n'y a pas que les îles Cyclades qu'il faut faire. Les îles autour de Corfou et de Corfou, c'est vraiment sympa.
J'ai dit 9000 îles, en préparant l'émission, j'ai vu ça, 9000 îles, c'est...
Oui, mais là,
il y a pas les cailloux aussi.
Sans compter les 9000, si on en prend 40, il y a 4 zones d'îles, en fait. Il y a les îles du Nord, il y a les îles d'influence turque vers Rhodes. C'est superbes îles. Bien sûr, les Cyclades, et puis les îles vénitiennes. Enfin, les îles vénitiennes, moi je les appelle les îles vénitiennes, mais moi je reconnais les îles aux toits.
Ça s'appelle.
Voilà. Les reconnais en termes de style en fonction des toits des maisons.
Mmh. Ouais.
C'est vrai. Il y a vraiment des architectures différentes. Et il y a de quoi. On peut aller dans les Cyclades quand même, hors saison, c'est extraordinaire. Au mois de mai, par exemple, vous n'avez pas grand monde. Donc il faut être malin quand on voyage en Grèce. C'est vraiment un pays. Il faut être malin. Il ne faut pas y aller en même temps que tout le monde, au même moment, dans les mêmes endroits.
Et il y a des alternatives. C'est ce que vous disiez, Ingrid. Il y a des possibilités, même l'été, de trouver des endroits. Est-ce qu'on trouve encore des plages désertes, par exemple, qui est une question que doivent se poser beaucoup de voyageurs?
Alors, par exemple, si on veut se rendre dans les Cyclades, on peut éviter des îles comme Paros, Naxos, les plus connues, et se rendre sur Andros ou Tinos, qui sont des villes principalement fréquentées par les Grecs. On rencontre très peu de voyageurs étrangers, avec une hôtellerie qui se développe, une belle hôtellerie également sur ces îles, et puis des plages absolument sublimes, où on a une bonne chance de se retrouver presque seul sur cette plage, même en plein mois d'août. Savoir, par exemple, qu'à Andros, et on le sait très peu, c'est une île qui a aussi une influence, un intérêt culturel fort, avec un musée d'art moderne, dans la Rora d'Andros.
Goulandris, la fondation Goulandris.
Tout à fait, des expositions annuelles de grands noms de la peinture. On a eu des expositions Man Ray ou Picasso, notamment. Et puis, on peut combiner Andros avec Tinos, qui est au sud. En plus, les traversées sont très faciles, prennent peu de temps.
C'est souvent ce qui rebute un petit peu les gens aussi avec la Grèce, c'est la difficulté d'accès de certaines îles. C'est assez long, il faut aller jusqu'à Athènes, reprendre un avion, un bateau.
Tu sais, plus c'est long,
Jean-François,
plus ça va être bien à la fin.
Ouais.
C'est-à-dire que moins tu auras de monde, moins tu auras de Grecs, moins tu auras d'Allemands.
De grec, non, moi il y aura de Grecs, non.
Moi il y aura de Grecs du continent, je veux dire.
Ah oui, du Grec, d'accord.
Donc si tu veux, clairement, quand tu pars en mois d'août en Grèce, tu as intérêt à ce que ton trajet d'accès à ton île soit
super long.
Franchement.
C'est pas vrai. Moi, je vais faire une petite page de publicité pour Voyageurs du Monde, figurez-vous. Puisqu'on parlait d'Andros, à Andros, vous avez un superbe petit hôtel avec très, très peu de chambres. Enfin, c'est des petites maisons, des petites villas et tout.
Côté de Pierre,
Léonard. Ouais, c'est ça, qui est complètement perdu. Une espèce d'embouchure de rivière, là, enfin, d'une petite rivière et ainsi de suite. Et là, il y a une plage où il n'y a jamais personne, y compris au mois d'août et tout. Ça, c'est extraordinaire. Et Andros, c'est juste à côté d'Athènes. En fait, je veux dire, tu vas à la finale, tu prends le bateau, tu en as pour une heure, tu es
en Andros. J'allais y venir. Il y a aussi des îles à côté d'Athènes, essentiellement fréquentées par les Grecs, qui sont sublimes.
Égine.
Voilà.
Égine, le quai d'Égine, tu parlais d'Aspetses, c'est déjà beaucoup plus loin.
Et puis cette île là où il n'y a pas de voiture, là,
Hydra,
c'est génial. Hydra.
Très demandé en été. Hein.
Ah ouais. C'est génial.
Très demandé, il y a du monde.
Il y a très peu, une capacité d'hébergement vraiment réduite. Hein. Il y a très peu d'infrastructures sur l'île.
Et c'est une île surtout de maisons.
Alors sur le continent, pour résumer, qu'est-ce que vous conseillez comme région, en priorité?
Alors là, par exemple, pour partir cet été où on trouvera encore de belles possibilités et pour combiner un aspect découverte et la plage aussi, parce qu'on ne va pas à la plage uniquement dans les îles, vous pouvez évidemment découvrir le Péloponnèse et notamment le sud avec les péninsules du Magne ou toute la région de Monemvasia.
Il y a un hôtel incroyable dans le Magne, dans une tour.
Le Tainaron Blue, qui est une ancienne tour de guet avec 3 suites. Alors bon, il faut s'y prendre un peu tôt pour avoir de la place. Ou la Grèce continentale, vous avez toutes les plages de l'ouest du continent, la région de Parga, Sivota, qui est très verte en plus. On change complètement de végétation.
C'est merveilleux, Péloponnèse. Hein.
Vous pouvez combiner
ce genre de choses. Alors, tout démarre quand même à Athènes. On va aller retrouver justement à Athènes notre ami Yorgos. Bonjour.
Bonjour Valérie.
Comment ça va Yorgos Archimandritis, vous voyez, j'ai appris à le dire sans me tromper. Écrivain, producteur pour la radio grecque, producteur de documentaires pour France Culture, je l'ai dit tout à l'heure, et puis biographe entre autres de Mikis Theodorakis et de Théo Angelopoulos. Et là vous êtes à Athènes, vous êtes souvent à Paris, mais là vous êtes à Athènes. J'avais envie que vous nous racontiez un petit peu l'ambiance à Athènes en ce moment, ce qu'est la Grèce aujourd'hui. Après la crise et avec les migrants et tout ce que la Grèce a connu.
Écoutez, Athènes en ce moment, l'ambiance est assez apaisée, c'est-à-dire on n'a pas tout ce qui se passait il y a 3 ou 4 ans avec le mouvement des indignés, avec tout le monde qui était dans la rue, etc., etc. Donc tout est calme. Malgré la crise, parce qu'on est toujours en crise, malheureusement, malgré la crise, la vie semble avoir repris son cours normal, sans excès, sans trop de signes de difficultés ou de cette situation. Donc, en ce qui concerne les réfugiés, on les voit pas à Athènes. Ça c'est une chose. On les voit peut-être toujours sur les îles, sur quelques îles. Mais Athènes, le centre d'Athènes n'est pas.
Alors, moi, je voulais que vous nous parliez de votre Athènes à vous. Je viens vous voir demain. Où est-ce que vous m'emmenez? Comment on démarre la visite?
C'est une bonne question. Ça dépend de combien de jours vous restez.
Autant que vous voulez.
Mais je pense que la promenade indispensable. La première promenade, c'est autour de la colline de l'Acropole.
Bien sûr.
Il faut absolument aller sur le...
Sublime.
Sur Plaka, mais aussi de l'autre côté. Bien sûr, Plaka, c'est un quartier très, très pittoresque et très typique, disons, de la Grèce, d'Athènes. D'Athènes des années 50 et 60, parce que ça garde toujours cette couleur très nostalgique, cette région d'Athènes. Mais il y a aussi l'autre côté où il y a qui est derrière le théâtre d'Hérodus Atticus, le théâtre romain, qui est juste au pied de l'Acropole. Il faut bien sûr monter sur l'Acropole, voir le Parthénon, les cariatides et toutes ces splendeurs de la colline. Il faut bien sûr aller au nouveau musée de l'Acropole qui est juste à côté. C'est un musée qui est né il y a 6 ou 7 ans.
C'est très beau, très très beau.
Très beau musée, Michel-Yves Labbé. Oui. Ouais.
Vous allez emmener Valérie faire le péripatos.
Exactement, oui, la promenade.
La promenade péripatos, d'où vient péripatéticienne, j'imagine.
Péripatéticienne,
exactement.
C'est là où
on marche.
Puisque voilà. Aristote enseignait en marchant,
voilà,
sur ce sentier autour
c'est
de l'Acropole. Voilà.
Exactement, ouais. C'était les philosophes péripatéticiens.
Voilà.
Voilà.
Donc il y a... donc
et donc vous disiez nouveau musée, il y a, en matière culturelle, Athènes est une ville qui bouge beaucoup, il y a beaucoup de
oui,
musées.
Oui, tout à fait, malgré la crise ou à cause de la crise peut-être, il y a un foisonnement de mouvements artistiques, de lieux culturels qui ouvrent l'un après l'autre. Il y a beaucoup de théâtre, il y a une vie, une effervescence culturelle vraiment, vraiment remarquable. On a d'abord le nouveau joyau d'Athènes qui est le nouvel opéra et la nouvelle bibliothèque nationale qui viennent d'être inaugurées au bout de l'avenue Syngrou, c'est la grande avenue qui mène vers la côte d'Athènes, vers le Pirée et toute la côte de l'Attique. Donc c'est un centre culturel énorme qui a été dessiné et construit par l'architecte italien Renzo Piano. Donc ça c'est la grande nouveauté d'Athènes. Et là il y aura donc le nouvel opéra comme je vous ai dit tout à l'heure et la nouvelle bibliothèque.
Ce qui est fou c'est qu'en période de crise, malgré tout on inaugure un opéra, on inaugure une bibliothèque.
Oui, ça c'est un des paradoxes de cette période, mais il faut souligner que des œuvres de cette ampleur sont dues à la contribution de grandes fondations comme la fondation Niarchos. Mm. C'est la fondation Niarchos ou la fondation Onassis qui a construit son propre centre culturel qui s'appelle le Toit des Arts et des Lettres, qui se trouve aussi sur cette avenue Syngrou, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, en parlant du nouvel opéra et de la nouvelle bibliothèque, c'était une œuvre qui a coûté à la Fondation Niarchos 650 millions d'euros. Et ça a été une donation donc, de la Fondation à l'État grec. Mm-hmm. Donc, c'est la grande tradition des mécènes, des corèges, de l'Antiquité, je ne sais pas. Mais ce sont les grandes fortunes qui vont au secours du pays quand le pays en a besoin. Après, est-ce que Athènes avait besoin d'un nouvel opéra ? Ça, je ne suis pas sûr. Oh, mais bon.
Ouais, vous êtes honnête, Jean-François. Ouais.
Non, je voulais vous demander comment vous sentez la vie quotidienne des Athéniens. Est-ce que c'est toujours aussi difficile ? Ou est-ce que vous ressentez une petite reprise économique ? Un arrêt de la descente aux enfers. J'ai quelques amis athéniens qui sont des cadres, on va dire, moyens et supérieurs, et qui travaillent dans différentes activités et qui m'expriment une vraie souffrance quand même encore, hein, de niveau de vie pour eux, enfin de difficultés quotidiennes, quoi. Quel est votre regard là-dessus ?
Vous savez, c'est assez compliqué, c'est-à-dire les Grecs, ce qu'on il y a une caractéristique du peuple grec qui est la suivante, c'est qu'ils ont dû, ils absorbent, ils incorporent leurs souffrances et leurs problèmes et ils apprennent à vivre avec leurs problèmes sans trop s'agiter, sans trop se révolter.
Ouais, ouais.
Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Il y a beaucoup de difficultés, c'est vrai. D'un autre côté, celui qui vient à Athènes ou qui circule dans Athènes, normalement, le jour, la nuit, il ne voit pas cette souffrance.
Non, pas du tout.
C'est plutôt une souffrance intériorisée, je crois. Je veux dire, une souffrance économique, et pécuniaire, intériorisée. On ne la voit pas. On ne voit plus autant de magasins qui sont fermés, ou, je corrige peut-être ma pensée, c'est qu'il y a des magasins qui ferment, mais il y en a d'autres qui s'ouvrent d'une façon étrange. Je ne sais pas à quoi c'est dû tout ça. Il y a des quartiers qui sont très vivants, très très vivants, qui se développent beaucoup, comme Kolonaki, comme Psyrie, comme Gazi, où il y a beaucoup de bars, beaucoup de boîtes, beaucoup de magasins, de restaurants et de nouveaux magasins qui s'ouvrent. Et puis il y en a d'autres qui je ne sais pas quoi vous dire. Mais on ne voit pas.
On ne voit pas quand on vient visiter la Grèce.
Non, c'est vrai qu'on le ressent
ouais,
pas quand on
ressent
on,
pas.
Quand on va en Grèce.
Ouais. En tout cas, il faut absolument s'arrêter à Athènes, évidemment, et ne pas simplement faire un stop pour reprendre un avion.
Bien sûr. Là, il faut absolument aller au musée.
C'est la limite de la faute.
Ouais. Qui est une splendeur.
C'est la faute culturelle de ne pas s'arrêter à Athènes.
Ouais.
Ah oui, non, mais c'est... Et puis sinon, il y a le musée d'art cycladique, qui est un petit musée sublimissime.
Oui.
Il a une collection de statuettes des Cyclades.
Fabuleuse.
De 5000 ans avant Jésus-Christ. C'est magnifique.
Ah, bon.
Là, par exemple, il y aura une petite exposition qui va être inaugurée dans une dizaine de jours au musée d'art cycladique, qui fait le parallèle entre le peintre Cy Twombly,
qui était à Paris, au Pompidou. Ouais.
Tout à fait. Donc il y a quelques œuvres de Cy Twombly qui viennent en Grèce et qui concernent les mythes. C'est une sorte d'interprétation des mythes grecs. Et ils vont être exposés en parallèle avec des antiquités, dont au musée d'art cycladique. Juste à côté, il y a la fondation Theokarakis qui vient d'inaugurer une exposition, c'était hier ou avant-hier, je crois, sur Maria Callas. Avec les habits de Maria Callas, parce que cette année, vous savez, c'est les 40 ans de la mort de Maria Callas, en septembre, le 16 septembre. Il y a le nouveau musée d'art moderne qui vient d'ouvrir ses portes à l'occasion de la Documenta 14, qui est la 14e édition de cette manifestation culturelle, et c'est la première fois, vous avez raison, c'est la première fois que Documenta voyage en dehors de Cassel, en Allemagne. Et donc, elle a été inaugurée à Athènes il y a un mois à peu près. Documenta va rester à Athènes jusqu'en juillet, début ou mi-juillet. Et après, donc, il y aura donc la Documenta de Cassel. Et puis le Festival d'Athènes, il ne faut pas oublier le grand Festival d'Athènes d'Épidaure.
C'est à quelle époque?
Ça commence dans la semaine prochaine, le 22, le 23 mai, et ce sera jusqu'au tout le mois de juin, tout le mois de juillet et quelques dates du mois d'août.
Écoutez, merci beaucoup, Yorgos, d'être intervenu. On espère vous avoir la prochaine fois avec nous à Paris. Merci beaucoup d'être intervenu ce matin.
Merci, Valérie,
merci à vous. Michel-Yves Labbé avait une question.
J'avais une question à vous poser. Quand j'ai vu votre nom, j'ai pensé... Vous savez, moi, je m'appelle Labbé, donc c'est un ordre religieux. Et j'ai pensé à vous, l'archimandrite.
On a des affinités, alors.
Absolument. Archimandrite, c'est quoi comme niveau dans le clergé orthodoxe?
Écoutez, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que je ne suis pas religieux moi-même.
Mais ça vient, c'est bien ça, c'est bien un grade des popes.
C'est tout à fait ça.
C'est un évêque ou quelque chose comme ça.
Ouais. Exactement, c'est d'accord. Un haut grade de la,
haut grade.
De la religion orthodoxe.
Ah, vous êtes beaucoup plus gradé que moi, là.
Je pense.
Mais je suis comme vous, pas du tout religieux.
Et je précise, je ne l'avais pas dit dans la présentation, que vous avez été nommé ambassadeur culturel pour la présidence française de l'Union européenne. C'était en 2008, voilà.
En 2008, tout à fait.
Merci beaucoup, merci d'être intervenu, Yorgos.
Merci, Nassou, ça veut dire
au revoir.
Au revoir. Ingrid, on l'a vu, c'est une ville qui se renouvelle, hein, Athènes, qui est en perpétuelle
ébullition.
Oui,
c'est une ville très moderne. On peut, d'ailleurs, j'invite les voyageurs à y passer plusieurs jours, parce qu'effectivement, on s'y arrête souvent une journée pour voir les essentiels de la ville, l'acropole et la placa. Mais Athènes, c'est bien plus que cela, comme vient de le dire M. Archimandritis. Vous avez des tas de quartiers très branchés qui se développent, avec notamment le quartier de Gazi, cette friche industrielle qui est maintenant un lieu très vivant où l'on peut sortir. Il y a beaucoup de créateurs aussi, beaucoup de créations artistiques avec toutes les galeries d'art de Kolonaki, donc le quartier qui se trouve derrière le Parlement. C'est aussi une ville tournée vers la mer, Athènes. Alors quand on y est déjà passé plusieurs fois, parce qu'on a des voyageurs qui viennent quand même régulièrement en Grèce, un peu fatigués de devoir s'arrêter à Athènes pour une nuit d'étape, on peut tout à fait envisager loger vers Vouliagmeni, au sud de la ville, où vous avez ce qu'on appelle la Riviera athénienne. Il y a quelques adresses plutôt haut de gamme, de très, très belles adresses sur cette péninsule. Et vous êtes à 30-40 minutes de route du centre-ville, donc pour apprécier la ville en été. Et,
parce qu'il fait très chaud, hein, il faut quand même dire chaud, que l'été, il fait très... Mais Michel va nous donner des petits trucs tout à l'heure pour visiter.
Pour ce qui est de la Riviera athénienne, hein, franchement, il y a des très très beaux hôtels. À 20 minutes d'Athènes, on y arrive même en tramway maintenant, si je me souviens bien, et il y a une péninsule là qui est absolument magnifique. L'ex-président Papandréou avait sa villa là, avec sa piscine et tout, et il y a des hôtels absolument magiques qui sont là. On peut très bien aller passer des vacances balnéaires à côté d'Athènes. L'eau est d'une propreté exceptionnelle, c'est très très beau. Il y a des calanques, il y a des plages, on voit passer les grands bateaux, tout ça. Et on peut en même temps aller profiter des restaurants branchés, des restaurants gastronomiques de très bonne qualité, et aller à Athènes, aller au spectacle le soir, et ainsi de suite. C'est aussi une destination balnéaire, ce que les gens ne savent pas.
Ce que les gens ne savent pas, oui, c'est ça. C'est pour ça que je disais que j'avais envie qu'on parle de la Grèce autrement que par ces îles aujourd'hui où tout le monde se masse l'été, et où il y a d'autres...
Et là, il y a un restaurant de Nobu. Vous connaissez Nobu?
Oui, bien sûr.
Il y a un restaurant de Nobu qui est, là, qui est au Marriott de Vouliagmeni, qui fait des sushis, mais alors avec du poisson de Méditerranée, des trucs à tomber.
Mais la cuisine grecque est excellente, aussi divine. Donc, donc c'est vrai que bon, on fera un petit écart pour vos sushis, mais Ingrid.
Et pour Athènes, si on a envie de découvrir la ville autrement que par ses sites antiques, il ne faut pas oublier l'histoire contemporaine et moderne de la ville qui est passionnante. C'est quand même un pays, en plus c'est une histoire bizarrement que l'on connaît peu en France. On s'est un peu arrêté à l'histoire antique du pays, mais Athènes, c'est aussi une ville qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup souffert. On peut notamment, chez Voyageurs du Monde, vous emmener une demi-journée avec un historien, Panayotis Grigoriou, qui tient également un blog sur la crise grecque, qui vous fait une balade absolument passionnante dans le centre-ville d'Athènes, dans des quartiers que les touristes visitent moins, notamment Exarchia, qui est le quartier contestataire, où vous trouvez l'école polytechnique de la ville, d'où est partie la contestation contre le régime des colonels. Et il vous montre cette ville très contemporaine et ancrée dans l'histoire moderne des Balkans, en fait, de toute cette zone.
Tout cet aspect sociopolitique de la région.
Oui, tout à fait.
Et puis, alors, il y a toujours aussi cette possibilité que vous offrez Voyageurs du Monde, Like a Local, où on peut vivre comme l'habitant.
Oui, et découvrir les marchés, le marché central et toutes les petites ruelles derrière, où d'ailleurs, il y a un très, très bon restaurant aussi, petite échoppe, Karamanlindika. Où on ne penserait jamais à entrer au final quand on passe devant. Donc là, nos likes locaux peuvent vous emmener découvrir les spécialités locales dans ces petites ruelles où personne ne va jamais, à part les locaux.
Ce qui est génial, c'est quand on rentre dans les petits restaurants comme ça et tout, et qu'on va dans la cuisine choisir ses poissons, choisir ses hors-d'œuvre et tout. On rentre dans la cuisine, on discute et tout, et puis
On choisit même des fois la façon
C'est fabuleux, oui, bien sûr.
Je voudrais qu'on parle de la Crète aussi. La Crète qui a eu une mauvaise image pendant quelques temps, parce que on pensait au tour opérateur, un tourisme de masse. Et là, il y a encore des endroits à découvrir en Crète, des sites méconnus qui sont à découvrir, c'est ça.
La Crète, moi, j'adore. Il y a tout. Vous avez des hôtels de dingue, de très, très haut niveau, qui ont complètement changé l'image de la Grèce. Vous avez des villages, des petits coins complètement authentiques, avec des pensions familiales. Dès que vous allez dans l'ouest de la Crète, vous êtes n'y a pratiquement pas de touristes. Donc c'est très facile de ne voir rien du tourisme de masse en Crète, qui existe bien sûr, ouais. Mais c'est très facile de ne pas en voir. Puis alors, si vous allez au sud, dans la zone où il n'y a pratiquement pas de route, où nos confrères de Terre d'Aventure font des trekking extraordinaires, c'est-à-dire que vous êtes dans une zone de... Je dirais pas que c'est l'Irian Jarea, mais enfin, il y a quand même pas grand monde qui circule dans ces coins-là. Il y a pas de route, il y a que des pistes. La Crète, c'est un continent à lui tout seul. Moi, c'est un endroit que je trouve béni des dieux. C'est-à-dire que dans la Grèce, il y a plein de choses sublimes, mais la Crète, c'est quelque chose.
Ouais. C'est marrant parce que moi, j'avais absolument pas envie d'aller en Crète. C'est, j'ai une image terrible.
Et toi, je te connais, Valérie, tu adorerais la Crète. D'abord, il y a une lumière incroyable. Il y a la mer la plus belle de Grèce pour moi. Enfin, c'est là que je trouve qu'elle est la plus belle. En termes de couleur, d'ambiance, de brume. Et puis, il y a cette espèce de mélange de culture italienne, de culture grecque, de culture turque. C'est incroyable, la Crète.
Valérie, elle est comme tous les journalistes, elle est pleine de préjugés.
Pleine de préjugés.
Ridicule qu'il écoute cher.
Mais je ne demande qu'à changer d'avis.
Écoutez, je vais vous dire, on dit là, le tourisme de masse. Mais il y a quand même des gens qui n'ont pas les moyens de se payer le tourisme de trop de gars. Et pour ce qui est d'un tourisme...
C'est une question de moyens, c'est aussi une question d'état d'esprit.
Pour ce que vous dites, le tourisme de masse, vous pouvez trouver des endroits d'excellente qualité en Crète à des prix raisonnables. Un bon produit touristique.
Mais moi, par exemple, je déteste le Club Med. Je n'aime pas le Club Med. C'est du voyage qui coûte très cher. Et c'est, j'aime pas être avec les gens. Donc c'est une autre question.
Tu peux aller en Crète avec un budget très très raisonnable.
Oui.
Dans des petites pensions. En famille, qui vont pas te coûter beaucoup plus cher que des voyages.
Il y a des gens qui ont refait des villages entiers.
Complètement. Des hôtels éclatés avec chaque maison est une chambre. C'est génial.
Et on mange délicieusement bien.
Ingrid, vous vouliez parler de l'hôtellerie et de certains endroits en Crète qui sont assez incroyables.
Oui, il y a différentes manières de découvrir l'île et dans l'arrière-pays, alors jamais loin de la mer, à 10-15 minutes, on a toutes ces petites adresses dans l'esprit, agritourisme ou d'anciens pressoirs à huile qui se sont développées. Donc on a différents niveaux de confort, mais en tout cas, il y a un vrai contact avec les locaux. On y mange très bien. Et d'ailleurs, les locaux, les hôteliers sont vraiment investis dans l'aménagement local, sont de très bons conseils pour découvrir leur île, dont ils aiment beaucoup parler. Et on a quelques adresses qui sont vraiment exceptionnelles, notamment dans l'arrière-pays de Rétimnon.
C'est exceptionnel.
Petit hôtel qui a été repris par un architecte qui en a fait une quinzaine de suites. Vous êtes au calme, vous profitez de tout ce que la Grèce a de meilleur. La nature est superbe.
C'est tout bio, mange que bio.
Et puis alors, si au contraire, tu vas de l'autre côté vers Elunda, tu as des hôtels de dingue.
Ouais. Très bon resort bord de mer.
Santorin en plus haut de gamme, quoi. Enfin, c'est avec des piscines à débordement, avec des vues sur la mer en permanence. Enfin, c'est incroyable. Il y a des qualités d'hôtellerie très luxueuses, assez raffinées aussi de l'autre côté. Donc, il y a vraiment de quoi faire.
Il y a vraiment de quoi faire et de sortir justement, encore une fois, je le redis, de ces...
Non, mais c'est vrai qu'il y a eu, vrai qu'il y a eu, Michel dit, il faut aussi qu'on soit honnête, il y a quelques zones en Crète, vers Agios Nikolaos, là, et puis vers la capitale, qui sont un peu bétonnés, mais c'est pas...
Voilà. Mais il suffit... Non, mais ce que je veux dire, c'est, par exemple, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans un de ces hôtels luxueux des Lunda. Dieu sait que si j'aime les Lunda, parce que j'étais au départ... Moi, j'ai travaillé dans une société grecque, un tour opérateur grec, qui s'appelait Chrysair à l'époque, et c'est nous qui avions lancé Lunda. Donc Lunda, c'est un endroit absolument fabuleux. Moi, j'adore cet endroit. Mais néanmoins... Tu peux aller dans... Il y a des offres qui sont des offres assez intéressantes. Tu peux aller dans un endroit où c'est peut-être un peu bétonné, mais où il y a des très belles piscines, où il y a des plages, où la mer est belle et tout. Et il suffit de prendre une voiture, ça coûte 30 euros par la journée, partir 10 minutes dans l'intérieur du pays, et vous êtes chez Orba.
Bien sûr.
Et ça existe.
C'est un pays qui est resté très authentique.
Valérie, et il y a aussi... des sites archéologiques somptueux. Donc vraiment, la Crète, c'est un super compromis. On a tout, quoi.
Enfin, le site archéologique somptueux, il y a Knossos. qui est beau. Après, ouais. Phaistos, par exemple, Phaistos, il faut avoir une bonne imagination quand même, parce qu'il n'y a rien qui est au-dessus de 30 cm.
Oui, mais si tu as un bon guide, c'est comme Olympie.
Oui, absolument.
Tous les gens te disent qu'Olympie, c'est nul. Moi, j'ai visité Olympie avec un guide fabuleux.
Ah ouais.
Et j'étais aux Jeux Olympiques.
Ouais, c'est ça.
J'ai passé 2 heures merveilleuses. Ouais, et le stade d'athlétisme d'Olympie, c'est une tuerie totale. Mm. Comme d'ailleurs celui de Delphes. Hein.
Mm. Ouais.
Celui de Delphes. Quand vous tombez sur cette piste d'athlétisme, si vous n'avez pas de choc émotionnel, c'est très inquiétant.
Et Delphes, c'est une ville qui vaut...
Delphes, c'est un site.
Ouais,
c'est
un site, la ville, c'est un site. Ouais,
la ville n'a pas d'intérêt.
Ouais.
Mais le site,
il faut aller voir le site.
Ouais. Le site, il est presque...
Dans un cadre extraordinaire.
Et le site vaut le Parthénon et l'Agora. Hein. C'est époustouflant, le site de Delphes.
On posera la question à la Pitié.
Voilà, oui, il ne faut pas oublier la Pitié.
Ah
oui,
la Pitié.
Et puis en plus, quand on visite Delphes, on visite un paysage.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est un peu comme les petits magnats en Libye, on n'est pas que sur un site antique, on est dans un environnement naturel incroyable, on est bien quoi, on fait une marche.
On fait du ski d'ailleurs au-dessus, alors on est sur les pentes du Mont Parnasse et à quelques kilomètres en altitude, il y a une station de ski locale, alors évidemment c'est pas les Alpes, mais les Athéniens se rendent souvent en hiver. Ouais, ouais.
Et d'ailleurs quand vous prenez l'avion de Athènes en France, il faut toujours prendre le côté droit de l'avion parce que vous passez, regardez, ça, vous avez Delphes, le golfe de Corinthe et le Mont Parnasse.
Il y a un tas de trucs dont on n'a pas parlé aussi, ouais. C'est le Mont Parnasse, la Béotie, les Béotiens, enfin tous ces mots incroyables que les Grecs
qui sont dans le langage, dans notre quotidien.
Les philippiques. Voilà. D'ailleurs, on ne s'est pas engueulé.
Moi d'ailleurs, je trouvais que quand les Grecs avaient leur crise financière, même s'ils avaient une responsabilité parce qu'ils avaient fait, c'est vrai, pour parfois n'importe quoi, je trouve que les Européens auraient dû leur faire cadeau de leur dette pour deux raisons. La première, c'est de toute façon, ils ne la rembourseront pas. Et la deuxième, c'est que c'est une façon de leur rembourser tout ce qu'ils nous ont apporté à la civilisation européenne. Ouais. C'était un cadeau qu'on aurait dû leur faire, à mon avis.
Oui, enfin, Jean-François, il faut quand même savoir que ce n'est pas la première fois qu'il ferait défaut. Je crois que depuis que la République grecque existe, qui est quand même relativement récent, ça fait un siècle et demi, ça fait 10 fois qu'ils font défaut.
Oui, mais enfin, les Allemands aussi, ils ont fait défaut 4 ou 5 fois dans l'histoire. Les Français aussi.
Oui, les Grecs, beaucoup plus que les autres, quand même, plus qu'à leur tour.
Et puis surtout, tu n'es pas obligé de leur reprêter, mais tu leur fais cadeau.
Non, mais si tu ne leur reprêtes plus, ils sont morts.
Allez, Ingrid, avant la carte postale de Michel Yves, on récapitule un petit peu des îles méconnues. Vous nous rappelez les noms des endroits où on peut aller.
Alors, du côté des îles, bon, évidemment, on vient de parler de la Crète, donc certaines zones de la Crète. Dans les Cyclades, là pour cet été, Andros, Tinos, on peut s'éloigner un peu sur des îles comme Amorgos, par exemple, un peu plus difficile d'accès, le trajet est plus long, mais... on n'en a pas parlé non plus, mais dans le Dodécanèse, cette île de Patmos...
Qui est déjà un peu plus connue aussi, non ?
Qui est plus connue, mais où on peut encore faire de très belles choses, notamment parce que l'accès est compliqué. Donc c'est toujours un peu le Graal en Grèce.
C'est ça,
c'est à partir du moment où on prend du temps pour arriver sur une île, on a aussi le fruit de ses efforts, c'est-à-dire de l'authenticité et un endroit quand même relativement peu fréquenté par rapport à d'autres îles. Si on remonte sur l'archipel des îles Ioniennes, vous avez aussi Paxos, au sud de Corfou, un petit caillou splendide où les eaux sont translucides et vous avez des petits ports de pêche. Alors, certains endroits peuvent être un peu chic aussi, tout dépend où vous allez, mais qui peut être une belle alternative. Et puis, évidemment, la Grèce continentale, le Péloponnèse et la Grèce centrale, Grèce du Nord,
trop souvent oublié,
toutes ces plages.
Oui. Alors, Michel-Yves, Athènes, on retourne à Athènes ?
Ben oui.
Mais parce il fait chaud l'été.
Non, mais parce que vous allez partir en Grèce, là, vous qui nous écoutez, vous allez filer vers les îles le plus vite possible, vous allez faire comme Valérie, là.
Ouais. Bien.
Ben moi, je vous le dis, arrêtez-vous à Athènes, y compris en été. Alors, je vous entends déjà, quoi ? C'est une ville poussiéreuse, polluée. Eh bien, figurez-vous qu'Athènes a changé depuis que vous y êtes passé avec vos parents, quand vous partiez pour un club de vacances... de bungalows rustiques au bord de la mer Égée, ça a beaucoup, beaucoup changé. Et alors, si vous voulez, on va commencer par tordre le cou à quelques idées reçues. Une ville polluée, à Athènes, Il n'y a plus de voitures diesel.
J'ai bien fait de ne pas poser la question. Ouais. J'ai failli le dire. Et voilà, je me serais fait rembarrer.
Il n'y a plus de voitures diesel pour les particuliers depuis 30 ans. La circulation alternée est quotidienne. Et avec la crise, elle a d'ailleurs beaucoup diminué la circulation. À Paris, quand il fait 25 degrés pendant deux jours, on est en alerte pollution. À Athènes, il fait 35 degrés quotidiennement. Et la ville sent bien moins le pot d'échappement que Paris, je vous le dis. Alors, j'ajoute qu'en été, beaucoup d'Athéniens sont partis dans les îles et que la ville est agréable à visiter, un peu comme Paris au mois d'août. Donc, voilà. Et puis, vous allez me dire, elle est poussiéreuse, cette ville. Mais les Jeux Olympiques sont passés par là, comme disait Ingrid. Et l'Europe, aussi, bonne mère nourricière, hein, voire vache à lait quelquefois, quand même, Jean-François. Et Athènes, du coup, a beaucoup changé. C'est une capitale européenne, beaucoup plus moderne que vous l'imaginez, et notre ami Yorgos nous le disait. Alors, vous allez me dire, mais je vais mourir de chaud. Eh bien, non, pas vraiment. Alors, certes, il fait chaud, mais les endroits frais sont légion. À commencer par le métro. Le métro, il est climatisé. Les rames et les stations. C'est pas pareil à Paris? Je sais pas, moi, je suis pas parisien, mais vous devez être en retard, là, un peu, quand même. Hein. Alors, un métro qui est nickel, construit par les Français, après moult atermoiements, retards et tout, qui était dû au chantier archéologique. Alors, d'ailleurs, on a décidé d'exposer sur place ce qui avait été exhumé. Ce qui veut dire qu'il y a des stations de métro qui sont de véritables petits musées. Musée. Et les musées? Alors là, il fait frais dans les musées. Le musée national, d'abord. Toute la grandeur de la Grèce, d'Alexandre, qui réunit là. Presque toutes, si on pense à ce que les Anglais, les Allemands, les Italiens et les Français ont piqué. Enfin bon, il en reste bien assez. Voilà. Vous comprendrez alors, en visitant le musée national, que la statuaire mondiale, elle décline depuis Phidias. En regardant les fesses des Corées, qui sont les femmes, et, ou des Kouros, qui sont les hommes, suivant votre obédience, hein, vous trouverez aux statues romaines une lourdeur gauche, et encore, je ne vous parle pas des Botero. Hein. Alors, admirez bien au frais le bronze de Zeus ou de Poséidon, on n'a pas encore tranché s'il tient la foudre ou un trident. C'est un fabuleux bodybuildé, un corps bodybuildé, plus grand que nature. Et est-ce qu'on a fait mieux depuis? Moi, je vous dis non.
Vous, alors, Michel,
un autre musée au frais, le musée d'art cycladique, dont parlait notre ami, Fondation Goulandris. Alors là, on remonte très loin, 3, 4, 5 millénaires avant Jésus-Christ, et c'est un panorama de l'art cycladique étonnamment moderne dans ses lignes. C'est l'inspiration de Picasso, d'ailleurs, hein, pas que de Cy Twombly. Et c'est, là, il y a une très agréable cafétéria qui vous accueillera au frais. Alors, reste le monument le plus délicat côté température, le Parthénon, où évidemment, il faut que vous alliez. Alors ça, c'est le phare de notre civilisation, et ça mérite l'escalade. Alors ça ferme le matin de bonne heure, ça ouvre à 8 heures. Et l'entrée et le chemin des propylées sont à l'ouest, donc à l'ombre en début de journée. Et le récent et splendide musée de l'Acropole est ensuite une halte parfaite et rafraîchissante. Voilà. Alors, il fera frais ensuite sur les places de la Placa ou de Psyri, le quartier branché, genre 11e arrondissement parisien, sous les dais et à l'ombre des vieux murs. Par exemple, sur la place de la Tour des Vents, la bien nommée, avec le Zéphyr pour ventilateur naturel. Déjeuner avec vue splendide sur le Parthénon. Ou bien, plus moderne, dans les cafés branchés de la Via Vucurestiu, la rue de Bucarest, ou encore sur la place Kolonaki, où le tout Athènes se retrouve sous les stores, en terrasse, avec brumisateur, pour déguster un frappé, ce café glacé grec, tout en partageant les derniers potins de la ville. Et vous savez que côté potin, depuis Homère, les Grecs s'y connaissent. Hein. Alors, vous pourrez aussi, d'un coup, train climatisé, aller au Pirée, sur les hauteurs de la ville du Pirée, on trouve de grandes pâtisseries, sont nommées Zakharoplastéion, où on déguste des délicieux baklava et des kadaïfs, dans des jardins, à l'ombre d'immenses arbres, et on le regarde les grands bateaux partir pour les îles. En face, il y a les bassins circulaires du port, le golfe Saronique, et Égine, l'île des meilleurs pistaches du monde. Hein. Alors, arrive le soir, vous êtes encore frais, avec mon programme.
Avec votre programme.
Alors, pour aller au théâtre Dionysos, sur les pentes de l'Acropole, assister à un spectacle, un ballet, un récital, un concert de vedettes internationales, Festival d'Athènes, acoustique superbe, 12 brises, voire même Meltem, le vent, hein, du nord, le Mistral local, qui nécessite, lui, une petite laine. Alors, vous avez la tête au frais et vous avez les fesses tièdes sur les pierres qui ont été chauffées au soleil toute la journée. Voilà. Et alors, une autre idée, c'est d'assister aux magnifiques sons et lumières depuis les terrasses des cafés du Tision ou du Philopapou, qui est le spot des photographes, vous savez, en face le Parthénon. Ça, c'est un show français. Alors, décidément, Les Grecs nous ont beaucoup apporté, mais on assure en retour quand même. Hein. Et un coup, ou alors un coup de tramway, et vous voilà à Vouliagmeni, dont on parlait tout à l'heure, pour dîner au bord de l'eau. Rappelez-vous que dîner à 22h est tôt pour un Grec, et que minuit semble encore une heure décente. Hein. Et on vous servira de toute façon à toute heure avec le sourire et le pas chaloupé de ceux qui n'attendent que la fermeture pour aller danser au bouzouki, voisin, tel Zorba, l'homme libre par excellence. Alors, crise oblige, on casse moins les assiettes au pied de la chanteuse ou du chanteur maintenant. Hein. Mais Raki, Ouzo et Résiné aidant, l'ambiance est toujours aussi belle que du temps du héros de Katsantzakis, et la musique de Theodorakis ou de Hatsidakis est toujours aussi envoûtante. Ces soirs-là, nous sommes tous grecs, le miracle hellénique. Croyez-moi, Athènes, en été, vous allez adorer.
Et on dort où?
Alors, on dort à l'hôtel Athénoise. C'est un boutique hôtel, design, près de l'Acropole. Un rooftop au frais, avec une vue extraordinaire sur le Parthénon. Et alors, je ne pouvais pas le manquer, celui-là, l'hôtel Fraîche, à deux pas de la place Omonia, le quartier populaire de la ville. Odeur de pain au sésame le matin. Rooftop avec vue, tout aussi spectaculaire.
Ce qui est génial dans les hôtels à Athènes, c'est d'avoir la vue.
Bah oui.
La vue sur quelque chose. Voilà.
Après, oui, ça peut être la campagne.
L'hôtel, moderne, c'est pas très grand.
Merci à tous les trois. Et puis j'espère qu'on vous a donné envie de partir en Grèce. À la prochaine.